Oui, alors j'ai 24 ans, je suis venue à Lille terminer mes études il y a un an en Master 2 Conception de projet en éco-développement, donc pas très loin de ces locaux. J'ai terminé avant-hier.
Ah, c'est tout neuf.
Oui, j'ai soutenu mon mémoire avant-hier, donc ça s'est très bien passé et je commence mon travail lundi.
Ah bon, bah alors on fait ça par l'émission alors.
Exactement.
L'éco-développement, c'est quoi?
Eh bien, en fait, on va parler d'éco-développement pour ne pas mettre le mot développement durable sur cette formation, mais on va dire que ça s'y assimile très bien.
Bon, d'accord. Et c'est en rapport avec la Chine?
Eh bien, oui et non. En fait, c'est via l'université que j'ai été mise au courant de ce programme. Je salue d'ailleurs les personnes qui m'ont
C'est le moment.
communiqué cette information. Donc via cela, j'ai pu candidater pour ce programme où j'ai été acceptée.
D'accord. Et c'est comme ça que vous avez fait ce merveilleux voyage.
Exactement.
Alors, Ronan Denoual, vous faites
Alors,
quoi?
moi j'ai 29 ans. J'ai aussi connu le campus que j'étais étudiant. J'ai fait mes études en 2001 à l'école centrale de Lille. Dans la foulée de l'école, j'ai créé une société qui s'appelle Hospimedia, qui est une agence d'information pour le secteur hospitalier. C'est un peu comme l'agence France Presse, mais pour le secteur santé. Et puis j'ai créé également une deuxième activité qui s'appelle Staff Santé, qui est du recrutement en ligne pour les métiers de la santé.
Et vous avez eu aussi une émission sur Radio Campus, il me semble.
Et j'ai eu une émission il y a très longtemps sur Radio Campus, hein, quelques participations à une radio, à une émission rock. Donc j'ai un petit peu connu les locaux.
Voilà, donc vous avez repris ce matin le chemin du studio.
Exactement.
Alors tous les deux, la Chine, vous en rêviez?
Oui.
Alors, Solène rêvait de la Chine.
Depuis toute petite, déjà, c'est un pays qui me fascinait depuis toujours. Alors, c'était un petit peu.
Et qu'est-ce qui vous fascinait dans ce pays?
La grandeur du pays, une vision véhiculée par les médias. Alors forcément, on y va avec quelques clichés. On entendait Julien tout à l'heure. Le témoignage de Zilé après, on voit bien que c'était deux visions déjà différentes avant d'y aller. Donc.
Oui, chacun a sa Chine dans la tête.
Oui,
Et donc la vôtre, elle remonte très loin.
bah oui.
Bon, bah alors c'est quand même une opportunité formidable. Alors Ronan, il rêvait tout petit de la Chine ou pas du tout?
Bah la Chine, pour nous, c'est lointain, je crois. Même aujourd'hui, même si on a accès à plein d'infos, plein d'images sur la Chine, en fait, je crois qu'on a tous à peu près les mêmes images quand on n'a jamais été là-bas. On a une grosse envie quand on est sur place, c'est de la confronter à ce qu'on voit réellement dans les villes. Et là, je crois que ben c'est assez différent pour chacun. Moi, en tout cas, j'étais très surpris et je crois que c'est complètement nécessaire d'y aller, puisque finalement, ce que nous renvoient les médias en Europe et en France n'a pour moi pas grand-chose à voir avec ce qui se passe réellement là-bas.
Et comment vous l'imaginez, cette Chine?
Bah, quand on l'imagine dense, on l'imagine économiquement en plein développement, on l'imagine bruyante. Enfin, c'est des choses, voilà, c'est peut-être les bouts de reportages, des bouts de films qu'on voit et qui nous font penser ça.
Et Solène, elle l'imaginait comment, sa Chine?
Effectivement, très dense, des villes où ça grouille beaucoup, des villes gigantesques. Bon, ça a pu être vérifié,
Oui,
effectivement.
ça, il n'y a pas de doute, c'était vrai. Alors, finalement, pourquoi vous avez postulé pour ce voyage? Donc, Solène nous a dit un petit peu que c'est l'université qui l'a contacté. Donc, Ronan,
Alors moi, c'était en fait dans le cadre de la création d'entreprise. En France, il y a pas mal de processus d'accompagnement et pas mal de concours aussi. Et ma société on avait été lauréat du concours du ministère de la Recherche, qui est lancé tous les ans pour les entreprises de technologie dites innovantes. Et nous, on avait été lauréat régional sur la région et puis national. Et donc, je pense qu'ils avaient sollicité pas mal d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui avaient été lauréats. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu accès au programme. Et c'est comme ça. Ben donc après, moi, j'ai évidemment fait acte de candidature et puis j'ai été retenu.
Voilà. Alors donc, pour en revenir à ce voyage, vous avez eu vent de ce qui allait se passer, mais vous n'étiez pas obligé de postuler. Donc tous les deux, vous avez eu envie de poser votre candidature. Qu'est-ce que vous avez mis dans la lettre de motivation?
Bah moi c'était j'ai simplement enfin j'ai expliqué mes activités les pistes de développement peuvent exister sur Jean Pays mais ne sont objectivement pas évidentes. Par contre ce que j'ai présenté c'était ma forte curiosité pour ce pays-là, ma forte envie de rencontrer d'autres entrepreneurs puisque c'est ça aujourd'hui qui me plaît, entrepreneurs chinois et également français puisqu'on était quand même une centaine de Français. Donc il y avait voilà, c'était pour moi c'était une forte curiosité de participer à un voyage où forcément il y aura des choses très intéressantes qui ressortiraient.
Et ça s'est vérifié. Solène, elle a écrit quoi sur sa lettre ?
Alors Solène, qu'est-ce qu'elle a écrit ? Moi j'ai plutôt un profil attiré par tout ce qui est lié à l'environnement, donc de par ma formation, et je voulais voir aussi de par tout ce qu'on raconte dans les médias si effectivement la Chine. On sait que c'est un gros polluant, ça c'est évident, mais bon, de voir aussi avec mes petits yeux ce qui se passait là-bas et ce qui se faisait, s'ils en avaient vraiment conscience, et puis comment ils réagissaient par rapport à ça. Et puis il y avait aussi un deuxième point, c'est par rapport donc à mon embauche, donc pour des raisons professionnelles. Je serais amenée à faire des audits de produits, par exemple, selon des référentiels internationaux. Je vais peut-être rappeler quand même.
Oui, on peut rappeler ce que c'est tout ça.
Ouais, voilà.
On nous dit déjà.
Donc, je vais travailler au sein du cabinet OGIP Qualité qui se situe à Douai. C'est un cabinet de conseil, de formation et d'audit en qualité, sécurité, environnement. Et
ouais, donc, tout ce qu'il n'y a pas en Chine en fait.
Bon, si, il y en a, il y en a. Ça peut paraître étonnant, mais ils en font quand même, eux. Mais selon leur propre référentiel.
Ah oui, voilà, c'est ça. C'est plus du tout le même.
C'est la différence. Donc parfois, des entreprises françaises qui ont des entreprises en Chine ou en Asie du Sud-Est et qui ont besoin d'importer des produits, eh bien, elles ont besoin de faire des audits sur ces produits-là pour les importer en France.
Alors maintenant que vous êtes allé en Chine, la qualité de l'environnement ?
Eh bien, la question ne se résume pas aussi facilement que cela, et quelque part, heureusement, sinon ce serait trop simple.
Oui, puis en plus, il n'y a pas une Chine, il y en a autant qu'il y a de provinces.
Exactement.
Donc du coup...
Et justement, la question est vraiment basée sur les limites de ces provinces, puisqu'il n'y a pas de décision prise, on va dire, de façon homogène. Donc chaque province a sa propre politique en termes d'environnement. Donc il y a des provinces qui sont beaucoup plus avancées que d'autres sur cette... thématique. Ce que je peux dire, c'est quand même qu'ils sont très conscients de ce problème et que ça, je me l'imaginais pas. Enfin, quelque part, j'étais restée, ils polluent, ok, mais...
Mais ils s'en fichent.
Voilà. Et en fait, pas du tout.
Bon, bah, c'est presque encourageant.
Oui, c'est encourageant. Mais ils s'en rendent compte parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des lacs pollués... Ils pêchent, donc ils mangent forcément les poissons, les lotus qui sont contaminés. Donc ils sont directement concernés.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence de réception des choses entre le chinois moyen, comme nous, français moyen, qui lui se rend compte que rien ne va plus, et puis le dirigeant chinois qui est obligé de faire marcher la machine de la croissance et qui là effectivement passe outre et file tout droit dans le mur.
Ouais, je crois que c'est vrai, il y a un gros décalage. On voit que la Chine se développe d'une façon extraordinaire. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 30 000 voitures qui sont vendues par mois en Chine, c'est énorme. Ça, on le retrouve vraiment dans les villes, des heures et des heures d'embouteillage.
Et à propos de voitures, c'est le moment de signaler qu'au salon de l'auto qui se tient en ce moment à Paris, il y a deux constructeurs chinois. Pour la première fois dans l'histoire de la construction automobile, ils sont présents au Mondial de l'Auto, qui est le premier salon du monde en termes de fréquentation de salons. Donc ça veut dire que si les Chinois arrivent, je crains que ce soit pour longtemps en tout cas. Parce que évidemment, ils ont un marché intérieur fantastique.
Ah bah bien sûr.
Et puis en plus, ils ont notre marché, tout va bien. Donc effectivement, on revient à cette pollution de voitures, mais est-ce que vous avez remarqué, quand on y était, on a eu beaucoup de chance, il faisait très beau à Pékin. Et le ciel était bleu. Mais moi, une fois, je suis allée à Pékin en août, et le ciel, il y avait de la brume, on ne voyait pas à 500 mètres. Et moi, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il fait très chaud, c'est humide, je pensais que c'était le climat. Et les Pékinois m'ont dit, pas du tout, c'est la pollution.
C'est quelque chose qu'on a un peu observé quand même, quand on a visité notamment une entreprise qui était, je crois que le Premier ministre chinois voulait absolument qu'on passe par celle-ci. Enfin, c'est Lenovo, oui. Qui est finalement un symbole important pour la Chine, puisqu'ils ont racheté quelque part un bout d'un gros américain qui s'appelle IBM, puisqu'ils ont racheté la branche PC d'IBM. Et je me rappelle quand on a visité cette usine, enfin cette entreprise plutôt, quand on est sorti, je me rappelle avoir vu un ciel très, très laiteux, une ambiance très particulière, pas très agréable à vrai dire. On ne sait pas trop si c'était moite ou si il manquait de lumière. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on s'est un peu rendu compte, mais est-ce que simplement c'est le climat ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas cette pollution
Ah non, en fait, il y a des jours où quand il y a la brume de pollution, on ne voit pas le haut des tours.
Ah, c'est ça.
C'est assez impressionnant, et surtout avec la chaleur. Et puis aussi, des fois, le ciel est jaune un petit peu. Ah non, ça, c'est sûr que la pollution, c'est pas bon. Enfin, bref, Solène va aller porter la bonne parole en Chine. Donc, vous avez fait ce voyage. Vous en attendiez quoi, finalement? Donc, la découverte, la curiosité.
Oui.
Au bout, quelque chose?
Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir quand même confronter par rapport à mes activités, voir comment ça se passe là-bas. Donc là, c'est encore un peu l'esprit curieux. Après, quand on est entrepreneur, finalement, on est toujours ouvert à pas mal de choses, des opportunités. On aime bien les saisir. Donc, notamment le fait de pouvoir rencontrer des entrepreneurs chinois. Et en particulier, il y a une journée qui était très intéressante qu'on a passée avec un entrepreneur du matin au soir. Où là, il y a vraiment pu y avoir des discussions. Je crois qu'il n'y a pas de langue de bois de la part des entrepreneurs. Pour ma part, moi, j'ai passé la journée avec un entrepreneur qui a 7 ou 8 sociétés. Qui était un peu plus âgé que nous, enfin 38-39 ans, qui nous a fait visiter donc ses usines, nous a montré 3 ou 4 de ses sociétés. Et le soir, on a pu pas mal discuter, parce qu'on a passé une soirée dans la famille. Donc ça, c'était assez exceptionnel, je pense. Ça doit pas être assez, pas courant.
Oui, c'est très difficile de rentrer dans une famille chinoise, de se réinviter.
Voilà. Et on a, il y avait lui, il y avait sa femme, il y avait les parents, parce que souvent plusieurs générations vivent sous le même toit, même si ce sont des gens qui avaient, on va dire, des moyens. Enfin, on disait quand même des familles assez riches. Il y avait l'enfant, l'enfant unique en l'occurrence là. Et donc là, on a pu avoir des réelles discussions, et là, on a compris que ils avaient une façon de faire des affaires qui était quand même, je pense, pas la même que nous on a en Europe.
Non, pas vraiment.
Mais... Voilà, puisqu'on a vu quelqu'un, moi j'ai vu quelqu'un en tout cas multicarte, mais vraiment multicarte, c'est-à-dire que sur les 8-9 sociétés, c'était toutes différentes. Et je crois que pour les autres qui ont également passé une journée avec un entrepreneur, c'était également le cas.
Oui,
ça, c'est très surprenant.
Oui, ça serait qu'on s'y attend pas. Oui. Solène, son expérience de sa journée
Oui, alors, moi c'était pas un entrepreneur, il était directeur d'une école, donc on n'a pas eu d'entreprise à visiter. Ceci dit, il en a profité pour nous faire découvrir la campagne de Wuxi. Il nous a emmenés à 2 heures de route dans les montagnes. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Donc, on était avec sa fille qui parlait anglais parce que lui ne parlait pas. Donc, elle servait de traductrice. On a déjeuné ensemble avec des amis à lui. Alors,
Une journée familiale en quelque sorte.
C'était une journée familiale.
Mais alors, un peu de détente pour vous.
Oui, ouais. Détente.
Pas pour nous, je crois. C'est-à-dire, vous étiez à Wuxi et nous étions à Suzhou.
D'accord.
C'est ça. Donc déjà, on n'était pas dans la même ville.
On n'était pas dans les mêmes villes.
Et donc, parce qu'en fait, on n'a pas spécifié qu'il y avait 3 groupes. Pour rendre le voyage un peu plus intense aussi, parce que chacun n'a pas les mêmes... Donc il y avait un groupe Nouvelles Technologies et Technologies de l'Information.
C'est ça.
Il y avait un groupe Distribution.
Et un groupe tout ce qui était agroalimentaire.
Voilà.
Ouais. Et puis un groupe Sciences de l'ingénieur. Ouais.
Voilà. Donc Solène a fait partie de Sciences de l'ingénieur, voilà. Et Ronan...
Tout ce qui était Système d'Information.
Voilà. Et donc moi j'ai suivi le groupe de Ronan... Donc nous avons vu la même ville. Par contre, Wuxi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ce que je sais, c'est que moi aussi, j'ai donc vécu l'expérience chez un entrepreneur. Et moi, c'était le directeur adjoint de la chambre de commerce de Suzhou.
S'il vous plaît.
Et voilà. Et surtout, il avait... c'est une grosse, grosse entreprise d'urbanisme. Et c'est lui qui construisait tous les ponts et les bâtiments municipaux. Donc nous n'avons pas fait une journée promenade. On a visité tous les nouveaux quartiers de Suzhou, alors qu'il y a des jardins historiques magnifiques. Hein. Il y en a d'autres qui les ont visités. Moi, en fait, j'ai vu des grands buildings toute la journée. J'ai vu des ponts. J'ai vu un lac artificiel. J'ai vu, enfin, j'ai vu la nouvelle ville dont il était si fier. Mmh. Et puis, à midi, il nous emmène déjeuner dans un hôtel. Alors, on se dit, bah, tiens, c'est sympa. Non, en fait, c'est son hôtel. Il a une chaîne entière d'hôtels. Donc, il est urbaniste. Il a une chaîne de motels dans toute la région de Suzhou. Il en a une centaine. Et puis comme il nous a dit, ben dans le temps qui me reste, je fais un petit peu de bourse. Donc, et ben dans le temps qui lui reste, effectivement, il paraît que il se lève à 6h, il rentre à 22h. Ça laisse quand même peu
de temps. Dans la journée, ouais.
Voilà, mais peu de temps pour faire autre chose. Donc nous aussi, on a eu comme vous l'expérience de l'enfant unique. Il y avait une petite fille très bien élevée qui nous a dit bonjour en anglais, puis ça s'arrêtait là. Et sa femme travaille dans son entreprise. Et le soir, c'est les grands-parents qui ont fait la cuisine pour nous.
Des arrêts. Voilà. C'était pareil en fait.
Ouais, parce qu'ils vivent, il y a au moins 3 générations.
Ouais.
Ça, c'est sûr que. Donc, ça, c'était vraiment le moment fort hein, pour vous, la journée.
Ouais, c'était vraiment extraordinaire.
Alors, après ce voyage, est-ce que vous avez envie d'engager des projets professionnels avec la Chine ?
Bah, c'est oui, enfin parce qu'en fait on se rend compte, alors on est toujours, il y a des images qui reviennent où on se dit c'est un gros marché, il y a encore des métiers à créer, ce qui est sans doute vrai. Il y a plein de choses qui existent déjà en Europe ou sur le continent nord-américain qui vont forcément arriver là-bas, des produits, des services. Donc il y a un réel potentiel. Pour avoir échangé et rencontré également des Français qui déjà commercent avec la Chine. C'est pas facile. Moi, j'ai une anecdote très toute simple, puisque dans le groupe il y avait un binôme, puisqu'on on partageait notre chambre simplement à l'hôtel, qui lui avait pendant 4-5 ans travaillé en Chine et monté une usine en l'occurrence pour un fabricant de matériel électronique français. À un moment, il y avait un incendie dans son usine donc, et l'assureur chinois a payé les salariés, les ouvriers de l'usine, pour déclarer que l'incendie avait été lancé par le dirigeant de l'usine. Puisqu'en fait, en Chine, tout incendie est criminel, donc il y a forcément un responsable. Si c'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Enfin, l'usine, voilà. Tout ça pour ne pas payer voilà. Et donc à ce moment-là, lui, heureusement, l'entreprise française est très 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 bien implantée en Chine, avait des relais politiques. Donc le réseau là-bas qui allait bien.
Oui, ça, le relais politique, voilà, est indispensable.
Il est complètement indispensable. Et là, on se rend compte finalement que business et activités économiques sont fortement liées au réseau politique qu'on peut avoir sur place. Donc ça fait un peu peur. Enfin, c'est présent aussi dans nos sociétés, mais on a l'impression que là-bas, c'est important, c'est très important.
Bah, là-bas, le parti contrôle tout finalement. Voilà. Hein. Mmh. Faut pas se leurrer. Mais certains de vos collègues ont déjà monté des joint ventures, j'ai vu ça.
Ouais.
Solène, Ogip Qualité, Agouchi.
Dans un premier temps, c'est évident que c'est pas non plus la perspective du cabinet. Aujourd'hui, l'activité à l'international, elle est peu, voire pas existante. Aujourd'hui.
Mais ils comptent sur vous pour la développer, puisque vous commencez lundi.
Alors, je commence lundi. Je vais essayer de me familiariser quand même avec mes premières tâches.
Oui, si vous arrivez tout de suite en disant on va en Chine, ça va leur faire un peu peur, peut-être.
Ça va leur faire peur.
Ouais, là, je crois qu'effectivement. Mais bon, il y a une grande différence entre vous deux, c'est qu'il y en a un qui a sa propre société, donc il fait ce qu'il veut, et l'autre qui va devoir convaincre et puis s'adapter à un milieu professionnel et qui ne va pas faire la pluie et le beau temps dans son entreprise.
C'est sûr.
Voilà, donc c'est ça la différence. Donc ce qu'il faudrait rappeler quand même, c'est que Ronan, s'il avait envie de monter une entreprise en Chine, mais il faudrait qu'il monte autre chose que ce qu'il fait maintenant.
Oui, parce que moi j'ai eu l'occasion justement lors du forum de rencontrer un des dirigeants de l'équivalent de l'AFP en Chine, donc l'agence Chine Nouvelle, et qui, donc c'est la grosse agence, hein, c'est celle qui alimente les médias internationaux avec l'information.
C'est la voix du parti.
Voilà, c'est la voix du parti, ni plus ni moins. Donc on a eu une discussion qui était très intéressante, mais bon, faire l'équivalent de notre métier, que ce soit sur le secteur santé ou autre d'ailleurs. Donc la notion d'agence indépendante et spécialisée sur un secteur, ça semble aujourd'hui complètement impossible. Je pense qu'il faut, c'est pas là-dessus que si je veux lancer une activité que je pourrais commencer. Ce serait plutôt sur des activités de commerce pur, que font d'ailleurs certains jeunes entrepreneurs qu'on a vus un peu pour tester le marché, où ils vont sur place, ils repèrent des produits intéressants qui n'existent pas en Europe et simplement remplissent grossièrement des containers et les amènent. Et c'est un bon moyen.
Leur marché, quoi.
Voilà, c'est un bon moyen déjà de voir comment peut se passer une relation commerciale avec la Chine.
Et vous auriez envie de quoi alors ? Vous mettez quoi dans votre container ?
Alors moi, ce serait, je pense qu'il y a ce qui m'intéresse, ce serait pas forcément sur la partie purement, enfin commerce. Moi, j'ai une activité qui est quand même fortement liée à l'internet. Et là, je pense quand même qu'il y a des choses à faire, même si on le voit que c'est pas toujours facile pour des gros acteurs internet étrangers. On les a vus récemment avec des Google ou des Yahoo. Mais
oui,
mais
ça
je pense
peut être
qu'il y a, voilà, y a un marché qui va être colossal. Enfin.
Et qu'il l'est déjà.
Le nombre d'internautes, je le connais pas en Chine, mais il est colossal. Voilà, donc ce serait plutôt sur ces pistes-là que j'aimerais bien plutôt travailler, enfin qu'aujourd'hui en tout cas correspondent à mes envies.
Qu'est-ce que vous pensez des transferts de technologie, Solène, Ronan?
Alors ça, c'est effectivement, enfin aujourd'hui on a l'impression que pour pouvoir s'implanter en Chine, pour un gros industriel qui soit américain, européen, il y a quasiment un ticket d'entrée à payer qui est de lâcher de la technologie. Alors, ça semble aujourd'hui incontournable. On l'a vu un petit peu avec Airbus, on le voit avec d'autres sociétés. Bon, je ne sais pas si. Pour l'instant, je pense que si on arrive à ces fonctionnements-là, c'est que voilà, c'est le ticket d'entrée à payer pour entrer sur ce marché-là. Il faut simplement espérer que dans nos pays, qu'on ait toujours une petite avance techno,
ouais,
voire une forte avance techno, que notre matière grise soit toujours un peu plus redoutable que
voilà,
celle qui est développée là-bas.
Et pour ça, il faut s'en donner les moyens, et c'est peut-être pas le chemin qu'on prend. Je fais une parenthèse, 123 millions d'internautes fin juin,
voilà,
dont 77 millions connectés en haut débit, ce qui met le pays en seconde position derrière les États-Unis en termes de nombre d'utilisateurs d'Internet.
Ce qui n'est pas rien.
Alors Solène, OGIP qualité, transfert de technologie.
Transfert de technologie. Sur ce genre d'activité, c'est difficile parce qu'en fait, on se rend rapidement compte que, bien sûr, il y a des cabinets qui peuvent agir d'un point de vue national et international. Mais après, ça reste quand même du conseil aux entreprises, c'est de la proximité quand même. C'est un cabinet qui existe donc depuis début 90. Je pense qu'ils ont bien fonctionné grâce à ça aussi. C'est parce qu'ils sont présents dans la région Nord-Pas-de-Calais et qu'ils peuvent agir tout de suite.
Oui, donc en fait, ça sera quand même difficile d'imaginer...
Ce sera des actions ponctuelles.
Oui, ce sera des actions ponctuelles. Alors, que diriez-vous à un jeune qui voudrait aller faire des affaires en Chine ?
Je pense qu'il faudrait qu'il soit fortement accompagné. Alors, il y a des choses quand même qui commencent apparemment à être lancées par, enfin, qui existent déjà par les différents gouvernements respectifs qui veulent que des personnes s'installent en Chine. Je crois qu'en tout cas, on peut pas débarquer complètement. Quasiment à nu et...
Non, parce que sinon on se fait plumer, on repart tout nu là.
Voilà, c'est là où je crois qu'on part vraiment tout nu. Non, je crois qu'il faut réussir à passer par différentes passerelles gouvernementales pour avoir les liens.
Voilà.
Il y a des acteurs qui sont présents pour ça.
Les missions économiques,
voilà. Il faut absolument se rapprocher de tous ces gens-là,
sinon
c'est
mesure. Et Ubifrance aussi.
Il y a Ubifrance aussi, oui.